Libre Examen,
Philippe Meyer, bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints pour un nouveau Libre Examen qui sera consacré ce soir au très tonique livre de mémoire que Jean-François Revel publie aux éditions Plomb sous le titre Le voleur dans la maison vide. Jean-François Revel, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais me livrer avec vous un exercice radiophonique triplement périlleux. Périlleux parce que vous l'avez en quelque sorte récusé d'avance en ironisant justement dans votre livre sur cette activité éminemment contemporaine qui consiste à demander à un auteur de dire plus ou moins bien ce qu'il s'est appliqué à écrire sans scorie et en suivant un dessin bien mérité. Périlleux parce que vous racontez dans ce même livre à quel point vous luttez depuis toujours contre tous ceux et tous ceux qui dévorent un temps que vous aimez consacrer à l'étude ou à l'amitié, mais en tout cas que vous aimez maîtriser, et périlleux enfin, parce qu'il n'est pas facile de donner, même dans une émission d'une respectable longueur, ne serait-ce qu'un reflet de ce qu'ont été et de ce que sont vos occupations, vos curiosités et vos rencontres, bref, de ce qui fait du voleur dans la maison vide un festin en parole, pour reprendre le titre de l'un de vos savoureux ouvrages. J'aimerais commencer cette conversation à bâton rompu, peut-être à bâton rompu sur quelques dos qui le méritent, et dont on sentira sans doute cette conversation qu'elle sera cousue du fil blanc de mon admiration affectueuse, par un trait de votre caractère auquel vous donnez le joli nom de caracole, en précisant le sens de ce mot par une citation que vous faites de Furetière. Mouvement qu'accomplit le cavalier afin que l'ennemi soit toujours incertain si on l'attaquera de front ou de flanc. Cette caracole, vous racontez comment vous en avez accompli les feintes, quelquefois avec vous-même ou contre vous-même, lorsque votre esprit rationnel et voltairien s'est affaissé, autre mot dont vous chérissez l'emploi, dans le gurdjievisme, dont d'ailleurs sans doute il faudra rappeler à nos plus jeunes auditeurs ce qu'il a été, ou même lorsque, après la résistance dont vous avez pris votre part, vous vous êtes trouvé au cabinet du délégué régional à l'information à Lyon, Auguste Anglès, votre ancien professeur, et que vous, si naturellement enclin à voir le dessous farcesque des choses et si ami de la liberté, vous êtes un bref instant saisi d'une altération de l'intelligence et conduit, je vous cite, à ne plus appréhender l'univers qu'à travers le prisme tyrannique de la bonne marche du service. Fin de citation. Qu'il s'agisse de vous ou des autres, l'une des questions, il me semble, qui court tout au long de votre livre est celle de notre propension, dans ce siècle, à la servitude ou à l'imbécillité volontaire.
Oui, volontaire, probablement, oui, parce que la servilité ou la servitude intellectuelle procure une sorte de confort. La grande tentation de l'esprit humain, et je dirais d'autant plus que cet esprit est davantage garni de culture et par conséquent dispose de munitions qui lui permettent d'argumenter sa position. Cette grande tentation, c'est, disons, de s'enfermer dans un dogme. J'ai, évité de succomber à cette tentation par un truc que je n'ai pas appliqué sans doute volontairement, qui n'est pas une méthode que j'ai conçue à l'avance, que j'ai dessinée à titre préventif, mais qui était plutôt une sorte d'instinct de survie, qui a consisté, je dirais, à appartenir toujours à deux ou trois mondes différents à la fois sur le plan professionnel, je dirais même sur le plan géographique, disons français. J'ai enseigné d'abord en Algérie, puis au Mexique, puis en Italie, et je ne suis rentré en France que lorsque j'étais à peu près assuré d'avoir, mais quand je dis ça, c'était pas tout à fait conscient, hein, d'avoir vis-à-vis de la France ce recul qui me permettait à la fois, dans cette culture et cette civilisation qui sont les miennes, que j'adore et dans lesquelles je me sens parfaitement à l'aise tout en étant parfaitement critique, ce qui est d'ailleurs l'indice de la civilisation française depuis le début. En même temps, sur le plan professionnel, je n'ai jamais été tout à fait uniquement professeur, ni uniquement écrivain, ni uniquement journaliste, ni uniquement directeur de collection dans une maison d'édition. Tout ça, un peu tout ça à la fois. Ce qui permet, disons, d'avoir des vues, d'aller-retour, un peu sur tout. Je crois que le grand danger que l'on court et de s'enfermer dans un seul système de pensée et d'existence.
Il y a dans la description ou au fil des descriptions que vous faites cette attitude à une part d'inné et une part d'acquis, pour reprendre des vieilles catégories. La part d'inné, vous ne l'expliquez pas, vous vous contentez de la raconter, je veux dire de la raconter d'une manière souvent extrêmement drôle, notamment vos rapports avec votre famille, dont vous dites qu'ils ont été excellents, que simplement vous lui reprochiez d'être en permanence mangeuse de temps et de produire une sorte de faisceau d'obligations auquel vous vous êtes ingénié, d'ailleurs le plus souvent avec succès, à vous dérober. Je pensais d'ailleurs aussi, car vous êtes marseillais mais d'origine comtoise, si je ne me trompe, et au fameux comptoir Antoine et Nîmes-Foy, où il semble qu'il y a en effet quelque chose chez vous dans de cette attitude chez vous. Mais il y a aussi l'acquis. Cet acquis, c'est un enseignement auquel vous rendez hommage, non pas par de grandes déclarations, mais par des descriptions très fournies, et c'est l'enseignement des jésuites, entre autres choses, ou en tout cas de quelques-uns parmi ceux que vous avez rencontrés chez les jésuites.
Oui, d'abord, j'ai surtout rendu hommage à mon professeur de philosophie, le père Nicolet, qui était peut-être le plus grand professeur que j'ai jamais eu, mais même avant, l'enseignement des jésuites avait quelque chose de précis, c'est qu'il était extrêmement sérieux. Quand on vous enseignait la grammaire latine, on vous enseignait la grammaire latine, on ne plaisantait pas, et puis quand c'était fini, vous la saviez vraiment. Bon. Avec Nicolet, finalement, quand je regarde, c'est certainement le plus libéral de tous les professeurs de philosophie que j'ai eus, y compris ceux que j'ai eus ensuite en Cagne, ou à la Sorbonne, ou à l'École normale, et c'est aussi celui qui, disons, m'a transmis le plus de connaissances. C'est celui qui était le plus documentaire, sans être pour autant simplement un pédant qui vous distillait des théories, des résumés de théories, n'est-ce pas ? Qu'il parle d'Épicure ou de Freud, c'était toujours à la fois extrêmement sérieux, c'est-à-dire qu'il vous transmettait un savoir, et en même temps très incitateur à une réflexion et un jugement très libre. C'est un grand homme, pour un grand pédagogue.
Alors, en plus de cet homme de liberté que vous avez décrit, il y a dans votre attitude à l'égard de l'apprentissage quelque chose que vous devez, là encore en partie à votre nature et à votre caractère, mais aussi en partie au conseil d'un de vos amis, René Scherrer, qui est le contact direct avec le texte. Ça a l'air tout simple, mais c'est une des injonctions, si je puis dire, qui va le plus à l'encontre des injonctions de la pédagogie contemporaine, d'aller directement au texte, qu'il s'agisse de philosophie ou de littérature.
Oui, c'est-à-dire l'enseignement de la philosophie, je crois que l'une des raisons pour lesquelles il a été en crise, à l'origine, ça partait d'une bonne intention. Les inspecteurs généraux qui faisaient les programmes de la classe de philosophie avaient peur que l'enseignement de la philosophie consiste uniquement à enseigner des résumés de doctrine, évidemment ce qui est l'antithèse de la vraie réflexion. Enfin, Spinoza a pensé ceci, Leibniz a pensé cela, en revanche, etc. Bon. Donc, pour éviter cela, il y avait cette idée qu'on n'enseignait pas l'histoire de la philosophie en classe de philosophie. Bon. Il y avait seulement un biais par lequel on pouvait l'enseigner, et ce biais, en tant que professeur, je m'en suis souvent servi moi-même, c'était le cours de morale, où on avait le droit d'enseigner les grandes doctrines de la morale, et par là, on pouvait entrer dans l'histoire de la philosophie. Or, à mon avis, ce qui partait d'une bonne intention et d'un bon principe a abouti à un véritable succès du bavardage. Parce que c'est comme si on vous disait on va enseigner l'histoire de la littérature sans parler des auteurs, sans étudier les textes, sans raconter la vie de Rabelais, de Rousseau, etc., et uniquement en réfléchissant sur le concept de littérature en général, sur le concept de poésie en général, etc. Le grand succès là, du monde de Sophie, l'auteur norvégien qui résume l'histoire de la philosophie, vient de ce que ça comble cette lacune. Parce que même à l'agrégation, la fameuse troisième dissertation à l'écrit, le paquet d'histoire de la philosophie, il y a très longtemps que ce n'est plus de l'histoire de la philosophie, que c'est une dissertation de philosophie générale où on vous demande non pas de connaître l'auteur à propos duquel le sujet a été donné, mais d'inventer une soi-disant interprétation personnelle qui ne peut être que de la fumisterie à ce niveau-là. Bon. Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a lieu de revenir à cette notion de base que l'histoire des idées, c'est-à-dire l'enseignement du patrimoine intellectuel de l'humanité, doit être la base de l'enseignement philosophique.
C'est la même réflexion que vous faites quand vous racontez cette partie de votre vie où vous êtes progressivement devenu connaisseur d'art et ensuite qu'est-ce qu'il faut dire, critique d'art ou écrivain, s'adressant à des amateurs d'art.
Je dirais que j'ai été simplement un honnête divulgateur de la bonne histoire de l'art. Je n'ai jamais rien dans ce domaine inventé moi-même, ni je n'ai fait de découverte fondamentale. J'ai eu un certain moment où les revues d'art, comme Connaissance des Arts et surtout L'Œil, auquel j'ai collaboré pendant plusieurs années, étaient une sorte de pont intelligent entre les spécialistes et un certain grand public éclairé. Disons, j'ai su, disons, synthétiser, exposer, mettre à la portée d'un assez vaste public l'état des recherches à l'époque où je collaborais à ces revues. En effet, il y avait en France une sorte d'incroyable situation qui faisait d'un côté que tout le monde croyait que simplement en entrant dans un musée, dans une galerie et en regardant les tableaux, on pouvait tout comprendre, ce qui est faux parce que la peinture, comme que toute autre forme d'art, comme la musique, etc., bien sûr, il y a une grande part de disposition, d'amour, d'instinct qui vous fait saisir tout de suite la beauté de quelque chose, mais il y a incontestablement la nécessité de s'initier à un certain code. Bon. La croyance dans cette infaillibilité du premier coup d'œil était doublée de ce que j'appellerais l'illusion rhétorique, qui s'incarnait dans deux auteurs, qui étaient Eliphore et André Malraux. Alors, un grand laïus très emphatique, pas toujours d'ailleurs mauvais, enfin dans certains cas c'est vrai, mais la couche intermédiaire qui était la connaissance réelle des sources, de ce que l'artiste avait vraiment voulu faire, du public auquel il s'adressait, de la signification de l'iconographie, et de, surtout de la connaissance de l'évolution des formes sur le plan plastique, tout ça n'était pas étudié de façon sérieuse. J'ai découvert ça en Italie, parce que, notamment grâce à deux amis qui, eux, étaient très au courant de tout cela, qui étaient André Fermigier et Jacob Bean, André Fermigier, tout le monde le connaît en France, qui est mort il y a quelques années, et Jacob Bean, qui était un grand historien d'art américain et qui est devenu ensuite conservateur en chef du département des dessins et des gravures au Metropolitan Museum de New York.
Simplement d'ailleurs parce qu'il était compétent, car il n'avait aucune préparation.
Il a été recruté sur sa compétence, ce que le système américain permet, alors que le système français, comme il n'avait aucun diplôme, il n'aurait pu terminer que comme technicien de surface au milieu du Louvre. Ils m'ont dit, mais non, c'est très utile de lire les sources, de lire ce qu'a écrit tel peintre, sa correspondance avec un tel, ce qu'il a voulu faire, etc. Bon. Et là, brusquement, j'ai découvert un moyen d'accéder à l'émotion esthétique qui était moins impressionniste, disons, moins superficielle que ce que j'avais cru. Comme mon père était un grand amateur, disons, du premier niveau, c'est-à-dire l'instinctif de la peinture, mais qui vraiment avait un goût pour ça, ça a complété, disons, cette espèce d'amour qu'il m'avait inculqué, qu'il m'avait permis de contracter pour les arts plastiques, et je me suis rendu compte bon, que la peinture était un art tout aussi complexe, sinon plus que la philosophie ou que la poésie de Gongora, etc. C'est qu'on ne peut pas comprendre au premier degré, c'est évident.
Alors je ne m'étends pas sur le sujet parce que vous l'avez en grande partie traité jeudi dernier avec Jean Lebrun dans Culture Matin, mais vous consacrez de nombreuses pages à ce qu'on appelle aujourd'hui la culture, et notamment un développement, je crois, particulièrement éclairant, une comparaison sur la société qui était celle de votre père, c'est-à-dire celle dans laquelle des gens qui n'avaient souvent pas de formation universitaire, votre père n'était pas bachelier, si je ne me trompe pas, avaient des conversations littéraires ou artistiques qui se référaient non seulement à la production contemporaine, mais à l'ensemble de la production, et un tel pouvait arriver un jour en venant partager ce qu'il venait de découvrir ou de redécouvrir en lisant Champfort, et tel autre en lisant Homère, et tel autre en lisant Alexandre Dumas. Et vous faites remarquer à quel point la société contemporaine ne discute plus que de la production contemporaine, et en se situant par rapport à des critères qui sont le plus souvent des critères de mode, c'est-à-dire des critères impersonnels. Plutôt, vous citez d'ailleurs cette remarquable phrase d'Étienne disant « tous les gens qui disent « je pense que » dans la plupart des cas feraient mieux de dire « je répète que ». donc je ne m'étends pas encore une fois sur ce sujet que vous avez abordé jeudi avec Jean Lebrun, et pour ne pas trop vous faire redire ce que vous avez écrit et ce que vous avez déjà dit à d'autres de mes confrères, j'aimerais peut-être vous en faire dire davantage sur certains personnages dont le nom revient souvent dans votre livre, mais de manière non pas allusive, mais pointilliste, et qui peut paraître pour le lecteur quelquefois suspendu en cours de route. Le premier de ces personnages, si j'ose dire, c'est votre ville natale, c'est Marseille. Il m'a semblé que vous portiez une vive affection à cette ville, en tout cas à la ville de cette époque et à sa sociabilité, et il me semble que davantage de portraits de Marseille pourraient nous ravir.
Alors, c'est Marseille, je veux dire, c'est une ville à la fois que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, et en même temps, j'ai été élevé dans un sentiment de méfiance à l'égard de Marseille, parce que toute ma famille étant donc franc-comtoise et lyonnaise, les Marseillais étaient considérés un petit peu comme des gens, c'était déjà l'Afrique, enfin, et notamment, on me faisait la guerre à la maison, à moi et à mon frère, pour que nous n'ayons pas l'accent marseillais. Enfin, ce qui fait que je suis devenu en fait bilingue, n'est-ce pas ? Je peux parler les deux. Car le français marseillais, je parle pas du marseillais, qui est une variante provençale, marseillais du provençal, le français marseillais n'a pas la même syntaxe. Par exemple, l'article indéfini, pratiquement, n'existe pas, n'est-ce pas ? On dit pas je vais acheter une salade, la salade je vais l'acheter, on dit bon. Et on ne dit pas voulez-vous me donner un pastis, on met le complément direct au début, le pastis, tu me le donnes ou tu me le donnes pas. Bon. Donc c'est une autre langue. Et alors, mon amour de Marseille est un amour déjà de résistance à ma famille qui considérait que le Marseillais était vulgaire, que l'accent marseillais était vulgaire. Et puis, bon, c'était, je veux dire, pour moi, je vivais moins souvent maintenant, j'allais beaucoup comme ma mère vivait encore, j'ai encore mon frère, ma belle-sœur, j'allais souvent comme ma mère. C'est une ville qui a pour moi un don magique, c'est qu'elle m'a fait perdre tout sentiment de culpabilité. Je crois que c'est la seule ville où je peux ne pas travailler sans avoir aucun remords. Je ne dirais pas que les Marseillais ne travaillent pas, non, c'est-à-dire que moi, singulièrement, je perds toute conscience morale quand je suis à Marseille, ce qui est un sentiment très agréable. C'est un recours prodigieux qui vaut des années de psychanalyse, vous le connaîtrez. Aucun repentir, aucun sentiment de culpabilité, aucune angoisse, aucune honte de s'être levé tard ou couché tard ou d'avoir déjeuné trop tard ou mangé trop tôt ou bu trop de ceci ou de cela. La totale disparition de la culpabilité. Évidemment, c'est un talisman extraordinaire.
Dans un article que vous aviez publié dans Le Débat en 1990, vous évoquiez de Marseille un aspect particulier que je crois on aurait intérêt à se rappeler aujourd'hui, qui est la vivacité de la culture populaire, et notamment à propos de l'opéra. Vous rappeliez à quel point l'opéra était fréquenté par une population qui en connaissait le répertoire et qui était de pauvres gens, de gens pauvres en tout cas.
Alors, justement, c'est une chose qui est un souvenir qui m'est revenu quand j'ai vécu plus tard en Italie. Et où, au théâtre communal de Florence, j'allais avec André Charmigier au Loggione, poulailler, parce que bien que nous fussions tous les deux des professeurs très bien rémunérés, parce que les professeurs à l'étranger sont mieux payés qu'en France, malgré tout les places étaient si chères à l'orchestre, et nous étions entourés au poulailler de Florence, de paysans, de Toscane, d'ouvriers, de tout petits employés, etc., dont nous nous apercevions qu'ils connaissaient véritablement par cœur les partitions de Verdi, de Puccini, de Donizetti, etc., qu'ils sifflaient ou applaudissaient selon que le soprano ou le ténor ratait ou réussissait tel air ou omettait telle ou telle note, etc. Et ça m'a brusquement remis en mémoire mes souvenirs d'enfance de l'opéra de Marseille, où d'ailleurs venaient souvent de grands chanteurs italiens. Il n'y avait pas beaucoup, une semaine par an, où on invitait Lauri Volpi et Gio Pinza, etc., et Toscanini qui dirigeait, car la municipalité n'avait pas l'argent nécessaire, évidemment, pour faire toute une saison. Et il y avait de vrais connaisseurs, et je me rappelle très bien, parce que dans mon enfance, mes parents avaient une maison dans un quartier, Sainte-Marguerite, qui alors était une sorte de banlieue campagnarde, où on continuait à construire des villas. Et donc je voyais beaucoup les maçons, tous les enfants du quartier allaient voir les maçons qui construisaient les maisons autour et qui chantaient ces airs d'opéra qu'ils avaient entendus la veille, qui avaient une connaissance parfaite des partitions. À ce moment-là, le grand ténor en France était Georges Till, et je me rappelle des maçons qui apportaient leur phonographe qu'on remontait à la main pour écouter un disque de Georges Till pendant qu'il cassait la croûte avec un oignon et une anchois. Et donc, je veux dire, ce qui m'a montré que l'opéra est un grand genre populaire, qui peut-être il n'est plus maintenant. Marie-Vanne de Saint-Pulgent a contesté ce souvenir en disant non, en fait, maintenant, n'est-ce pas, c'est uniquement un genre très élitiste. Moi, en tout cas, dans mon enfance, c'était pas uniquement un genre élitiste.
Ceci pour dire que ce que vous reprochez à la politique, plutôt à la rhétorique culturelle actuelle, c'est de multiplier des, entre guillemets, événements à la place d'être une politique qui se fasse sur la durée, à travers d'abord l'enseignement et ensuite à travers l'offre de spectacles de qualité auxquels pourraient accéder des gens de toutes les classes sociales, pour peu que l'enseignement leur en ait donné, ou que la vie tout court leur en ait donné le goût.
Je dirais qu'il y a l'envers de tout avantage. Bon, l'avantage, c'est qu'incontestablement, la culture, que ce soit dans le domaine plastique, musical, littéraire, s'est extraordinairement répandue. C'est une très bonne chose. Elle s'est répandue grâce aux grands moyens de communication, grâce à la radio, grâce à France Culture, grâce aux grandes émissions de télévision de qualité, etc. Il n'y a qu'à constater qu'il y a évidemment aujourd'hui mille fois plus de gens qui vont voir les grandes expositions de peinture, les grands spectacles, etc. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait positif. L'envers de cet avantage, c'est la possibilité pour beaucoup de gens de se croire ou de se prétendre introduits dans la culture, alors qu'en fait, ils n'ont pas de contact direct avec elle, qu'ils pratiquent ce que j'appellerais la culture par oui-dire. Il est certain que l'ancien système, que l'on décrit à tort comme étant uniquement bourgeois et élitiste, car ce n'est pas vrai, beaucoup de gens qui n'avaient pas de formation à la base accédaient à cette culture, était uniquement une culture du contact direct, où vous lisiez ou vous ne lisiez pas, où vous alliez voir un tableau ou pas, ou bien où vous alliez voir tel opéra, où vous agitiez tel concert, ou sinon vous ne parliez pas de Boulez ou de Schubert ou de l'interprétation de machin, etc. Bon. Donc c'était beaucoup plus loyal, si vous voulez. À tout point de vue, vous avez un enseignement qui était un véritable enseignement, où vous saviez ou vous ne saviez pas, si vous ne saviez pas, vous étiez collé à l'examen, terminé, circulation, et ensuite au niveau supérieur, où vous lisiez ou vous ne lisiez pas. Bon. Alors ça, c'était très positif. Parce qu'au fond, on accédait à la culture que dans la mesure où on en touchait vraiment le rock. Mais évidemment, c'était assez restreint. Pas par les questions d'argent, contrairement à ce qu'on dit, parce que on connaissait des bourgeois totalement illettrés qui avaient jamais lu un bouquin, et des gens qui, comme mon père, n'avaient pas le bachot et qui s'étaient formés tout seuls. Bon. Y compris en peinture, car c'était un grand amateur de peinture. Ignare en musique, ce qui prouve qu'il était sincère, parce qu'il cherchait pas. Du moment que ça lui plaisait pas, ma pauvre mère avait beaucoup de mal quand on transmettait la Traviata à la radio, avoir l'autorisation de l'écouter. Soit lui, il se retirait dans son bureau en ricanant et en se mettant dans la musique militaire. Alors, donc, si vous voyez, je crois que c'est ça. Il y avait une culture qui était plus restreinte, mais pas, contrairement aux thèses de certains sociologues d'aujourd'hui, restreinte pour des raisons d'argent, ça c'est de la blague, mais qui était restreinte parce que, disons, où on avait le contact direct, où on l'avait pas, mais qui était authentique. Bon. Aujourd'hui, on a élargi, disons, la possibilité d'entendre parler des choses, et donc d'y accéder si elles vous intéressent, mais également la possibilité de faire semblant qu'elles vous intéressent, même si, en fait, vous n'êtes pas sensible, et donc de développer une sorte de magma culturel, les fêtes de ceci, le livre en folie, je sais pas quoi, la moule en folie, non, il y a un restaurant qui s'appelle la moule en folie, mais
il y a une fête de la moule à Logivie de la Mer, voilà,
et Côte d'Arbre. Et donc, si vous voulez, je crois que, après cet extraordinaire succès de la démocratisation de la culture, il y aurait une réflexion à poursuivre, comme diraient nos politiciens, sur le fait de la rendre de nouveau plus authentique. Et je ne vois pas d'autre moyen que de rendre à nouveau l'enseignement plus sérieux.
Et de faire en sorte qu'on multiplie les occasions d'un contact direct avec les œuvres et non pas d'une glose sur les
exactement
de cette rhétorique voilà. Qui souvent est un peu la rhétorique.
Donc on finisse avec la culture des entremetteurs culturels. Ouais. Et qu'un contact direct entre l'amateur et l'œuvre soit établi.
Alors je vais passer du coq à l'âne, encore que l'expression est là particulièrement malheureuse, mais il y a un second personnage qui affleure souvent dans votre livre et dont vous ne dressez pas, contrairement à beaucoup d'autres, dont vous ne dressez pas le portrait, c'est André Breton, dont vous avez été pourtant l'ami et le...
J'en parle souvent.
Vous en parlez souvent, mais vous ne développez jamais un portrait de Breton, comme vous faites par exemple un portrait d'Aron, un portrait de Fermigier,
un portrait de Berle, évidemment, de Jouvenel
et de Tendre.
Alors, d'abord parce que Breton était très portraituré, qu'il s'est portraituré lui-même, mieux que personne, n'est-ce pas et donc, que disons là... L'allure de Breton, c'est une espèce de solennité humoristique, n'est-ce pas ? Il avait un ton qui, je cite une remarque de lui, un jour je lui dis, je lis un article où on vous compare à Claudel, et il me dit, est-ce pour salir Claudel ou pour me grandir ? N'est-ce pas ? C'était son ton. Et donc, Breton est quelqu'un qui a été énormément dépeint, qui a été énormément photographié, qui lui-même s'est beaucoup raconté, parce que finalement tous ses livres sont des itinéraires, que vous preniez Nadja, L'amour fou, ce sont des livres, disons, d'auto, je dirais pas autobiographie, mais d'auto-onirisme et d'autodescription. Par conséquent, je n'ai pas voulu disons, faire double emploi avec cela. Et puis, vous avez certains personnages qu'au fond on reçoit dans des éclairs. Par exemple, Cioran, qui est un personnage très discret, très silencieux. Bon, je l'écris à un moment donné où il parle des peintres, n'est-ce pas, et où il dit mais les peintres sont des gens qui ont un orgueil extraordinaire. Ça, je marchais, je me rappelle avec lui, avenue Georges Mandel en direction du Trocadéro où nous allions prendre le métro. Et il me dit, en cas de révolution, cher ami, première chose, descendre tous les peintres. Et alors, un trait comme celui-là, c'est qu'il y a certains personnages qui sont des personnages eux-mêmes que l'on aperçoit dans des anfractuosités, si vous voulez, comme dans l'entrebâillement d'une porte. Et il faut le regarder, ce caractère-là.
Jean-Vincent Ravel, dans votre livre, vous racontez votre vie italienne, votre vie algérienne d'abord, je crois, dans l'ordre chronologique, votre vie italienne, votre vie mexicaine. Je signale d'ailleurs au passage que votre « Pour l'Italie », qui pouvait être interprété comme un « Voilà pour toi », dans ce sens, c'est-à-dire une déclaration amoureuse mais non aveuglée par l'amour, et qui avait fait à l'époque un bruit, j'allais dire un foin considérable dans ce pays. Votre « Pour l'Italie » est republié dans la collection bouquins de Robert Laffont, où on peut également trouver le « Sur Proust ». Alors, là aussi, on est en plein dans cette civilisation des intermédiaires dont on parlait tout à l'heure, intermédiaires qui ont fini par faire de Proust une sorte d'abstracteur de quintessence perpétuelle, et dont vous montriez dans ce livre qu'il est d'abord un observateur humoriste, satirique, ironique, mordant des comportements, et qu'il faut lire Proust comme un auteur drôle, j'allais dire, avant de le lire comme une sorte de philosophe affaissé en romancier, pour reprendre ce mot d'affaissé.
Entre autres, un grand auteur comique, d'ailleurs, quelqu'un l'avait dit avant moi, c'était Bernard de Fallois dans la préface du Contre Sainte-Beuve, n'est-ce pas que...
Oui, qu'il avait retrouvé.
Il a écrit une idée de Proust et qu'il avait retrouvé. Je crois que l'histoire littéraire faite par des pédants est une machine à rendre ennuyeux les grands auteurs. Pas les très grands historiens de la littérature, Sainte-Beuve lui-même, malgré ce que dit Proust, ou aujourd'hui quelqu'un comme Marc Fiumaroli, etc., sont des gens qui, au contraire, ravivent les grands auteurs. Mais Il faut dire qu'une grande partie de l'enseignement consiste à enrober d'une métaphysique soporifique, n'est-ce pas, des auteurs qui ont écrit dans la joie ou dans le chagrin, parce que dans Proust, il y a aussi le côté de la douleur, de l'amour, de la jalousie. Mais de toute façon, c'est la vie. Alors, l'idée de transformer en sujet bêta de dissertation assommante des génies, n'est-ce pas, qui ont tellement réveillé l'existence, quelque chose que j'ai jamais pu supporter. C'est la raison pour laquelle, quand j'étais petit, n'est-ce pas, je séchais le collège.
Avec des techniques très éprouvées, très efficaces.
René Chéret, justement, me disait ça, ne perds pas ton temps à lire des thèses sur Kant, lis la Critique de la raison pure directement.
Bon. Et votre surprise a été que la Critique de la raison pure était plus facile à lire
que les commentateurs. Que les commentateurs. Pourquoi vivraient les commentateurs s'il suffisait de lire Kant?
Vous avez évoqué le nom de René Scherer. Il est le frère de Maurice Scherer, lequel est plus connu comme cinéaste sous le nom de Eric Rohmer. Il a été lui aussi votre ami. Vous avez été, quand vous étiez au Mexique, le fondateur du premier ciné-club d'Amérique latine, et vous confiez dans ses mémoires que un temps vous aviez caressé l'idée d'être cinéaste.
À ce moment-là, si vous voulez, le cinéma m'occupait tellement, m'obsédait tellement, j'étais devenu un cinéphile. La cinéphilie est une drogue, n'est-ce pas, plus peut-être que l'amour des autres arts. J'ai souvent remarqué que les cinéphiles, les critiques du cinéma, sont plus intransigeants, ce sont des sortes de théologiens, n'est-ce pas, qui... Et donc, moi, j'étais... mon rêve était peut-être de pouvoir un jour devenir réalisateur. Du reste, les amis qui gravitaient autour du futur Éric Rohmer, Rue Victor Cousin, dans l'hôtel de Lutèce, je crois, s'appelait Claude Chabrol, s'appelait Truffaut, c'était les gens qui collaboraient au
Cégolf, qui était l'un des scénaristes,
Il y avait aussi Godard, etc. Bon, tout cela ont commencé, disons, par la critique de cinématographique, et puis ils sont devenus des réalisateurs que l'on connaît, enfin qui ont fait l'histoire du cinéma contemporain. Mais cette ambition, très vite senti que je n'avais pas la capacité de la réaliser. Et d'autre part, il y a quelque chose un peu qui a cassé ma fréquentation du cinéma. C'est que quand j'ai été nommé en Italie, j'étais nommé dans un pays où, hélas, malgré que le cinéma italien fut extrêmement brillant à l'époque où j'y vivais, et encore maintenant bien sûr, on ne pouvait pas voir de films en version originale. C'est extrêmement curieux, à part les films italiens eux-mêmes, qui d'ailleurs n'étaient pas toujours en version originale, parce que presque toujours ils étaient post-synchronisés, oui, et post-dialogués. Ouais. Bon. Ce qui fait que j'étais dialogué de façon très vraie, bon, des dialogues qui manquaient de naturel. Mais les films américains, français, anglais, etc., on ne pouvait pas les voir dans la langue originale, sous-titrés, c'était toujours doublé en italien de la manière la plus sotte, et coupé, car aucun spectacle ne devait dépasser 1h30. J'ai vu Le Salaire de la peur dans une version qui était réduite de moitié. Et doublé en italien. Bon. Il n'y avait pas non plus de ciné-club, il n'y avait pas de cinémathèque. Ça, pendant les 4 ans que j'ai vécu en Italie, j'ai perdu le contact avec la culture cinématographique. Et puis après, j'ai été contaminé par la culture philosophique, c'est ça qui m'a repris en main, et donc là c'était fichu. Quoi.
Je profite quand même de cette parenthèse italienne pour conseiller vivement la lecture de ce Pour l'Italie, qui est donc dans le volume de bouquins dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a aussi
beaucoup de philosophes,
et les contre-censures, et la cabale des dévots, mais parce que ce Pour l'Italie est une sorte de journal, au fond, que vous tenez pendant votre séjour de professeur à Florence, et que on prendra la mesure de ce qu'était l'Italie des années 50, et aussi de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais enfin, je pense difficile de comprendre l'Italie d'aujourd'hui sans avoir l'occasion, sans aller se référer à cette observation d'époque, dont vous dites vous-même qu'elle a été jetée quelquefois à la va-vite sur le papier, mais qui est pleine de ces petits faits qui font que précisément on peut comprendre, je crois, l'Italie d'aujourd'hui. Comme nous entrons dans les 5 dernières minutes de cette émission, j'aborde le sujet que j'aurais d'ailleurs abordé plus tôt, la France est affligée d'un provincialisme constant. Or, vous êtes à la fois un voyageur, vous l'avez beaucoup été, vous êtes polyglotte, vous vous êtes beaucoup intéressé à l'Amérique du Nord et à l'Amérique latine. L'Amérique du Nord, on s'en souvient, à travers Ni Marx ni Jésus, où vous annonciez la fin du melting pot, ou plutôt l'inexistence du melting pot et l'émergence de cette culture de ce qu'on appelle aujourd'hui les tribus, les communautés, le multiculturalisme, et aussi, je le disais, l'Amérique latine. Aujourd'hui, et ces voyages et cette information que vous relevez constamment dans la presse étrangère, quelle sorte de place vous paraît tenir la France, pour commencer par un sujet franco-centriste, dans ce qu'on appelait autrefois le concert des nations?
Alors, contrairement à ce qu'on pense, je pense que la France est, au point de vue politique et économique, et même stratégique, une plus grande puissance qu'entre les deux guerres. Parce qu'entre les deux guerres, c'était une fausse grande puissance, et c'était un pays complètement décadent au point de vue industriel et économique. Donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui, la France a plus d'influence. Sur le plan culturel, je crois que l'influence culturelle n'est pas liée à la réussite économique et politique. Parce qu'au contraire, la France décadente de l'entre-deux guerres était une France qui, sur le plan de la peinture, de la musique, de la littérature, était absolument éclatante. Je crois qu'aujourd'hui, la France souffre du protectionnisme culturel. C'est pas de cette idée que la fameuse exception culturelle. Je crois que c'est une grave erreur. D'ailleurs, Baudelaire l'avait déjà dit quand il disait on veut toujours nous épargner la souffrance de la comparaison. C'est pas une bonne manière, vous comprenez. C'est comme Guillaume II qui se faisait envoyer des volatiles. Il était sûr de les tuer parce qu'ils arrivaient à moitié morts déjà au bout de son fusil. Bon. Alors, je pense, oui, qu'il y a là un refus du risque intellectuel et qui me paraît être le phénomène inquiétant. La France n'a pas à s'inquiéter quant à son rôle dans le monde. À mon avis, il est considérable aujourd'hui sur le plan politique ou économique, etc. Mais en revanche, c'est sur le plan où elle se croit le plus sûre d'elle, c'est sur le plan culturel, qu'elle devrait faire attention.
Jean-François Revel, je vous remercie. Je rappelle que le titre de votre livre de mémoire est Le voleur dans la maison vide. C'est un titre que vous avez emprunté au bouddhisme et que vous utilisez non pas seulement parce qu'il signifie, comme vous le dites, qu'il fait l'image de notre passage bref comme sous-locataire dans un appartement qui a été abondamment occupé avant nous, mais aussi parce que il fait référence à ce siècle curieux dans lequel on est entré avec la fleur du progrès à la bouche et dont on ressort sans avoir trouvé rien de ce qu'on y avait espéré et même en y ayant trouvé largement le contraire. Le voleur dans la maison vide est édité chez Plomb et l'ensemble des titres dont je parlais tout à l'heure est donc édité en même temps dans la collection bouquins de Robert Laffont.